6h04, mercredi 16 mai. Bonne journée, bienvenue au 88.5 FM. Très, très belle journée. C'est du soleil aujourd'hui, 22 degrés. Déjà, le ciel est pas mal dégagé. Il y a donc du soleil avec 4 degrés. Ça va se réchauffer, les vents sont légers. Demain, jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 19. Vendredi, du soleil 16. Samedi, on ne sait pas trop encore. Alternance de soleil et nuages, 20 degrés, 40 % de probabilité d'averse au cours de la journée. Et finalement, pour dimanche, on prévoit de la pluie intermittente. C'est un long congé. La bonne nouvelle, c'est que lundi, on prévoit du soleil et 23 degrés. D'abord, deux nouvelles sur la scène internationale. Le ton a changé du côté de la Corée du Nord, qui menace maintenant d'annuler le sommet avec le président Trump. Donc, les médias officiels en Corée du Nord ont diffusé des messages en dénonçant le sommet et les manœuvres militaires prévues en coopération entre la Corée du Sud et les États-Unis qui doivent commencer dans les prochains jours. Et ce qui irrite profondément le régime, considérant que c'est une provocation. Alors, est-ce que le sommet qui est prévu avec le président de Singapour aura lieu? Plusieurs y voient une stratégie de la Corée du Nord de établir un espèce de rapport de force avec le président Trump avant le sommet comme tel. Donc, on profite de ces manœuvres militaires pour justement montrer qu'on ne veut pas s'en laisser intimider puis créer une espèce de climat au moment de ce sommet. Pour ce qui est maintenant de la situation dans Gaza, ça semble plus calme ce matin, même s'il y a encore des échanges, enfin des tirs qui ont été entendus. Il faut dire que le bilan des affrontements depuis l'ouverture de l'ambassade à Jérusalem, l'ambassade américaine, fait état de 60 morts, près de 1400 blessés. La journée d'hier qui a été consacrée à des funérailles. Et il faut dire aussi, on parle des blessés par balle, mais il y a eu d'autres personnes blessées au cours de ces affrontements. Et je reprends une manchette ce matin qui dit que la mobilisation va se poursuivre dans les prochains jours, mais que la stratégie ne semble pas très claire. Hier, faible participation. Ce matin, peu de gens, mais il y a encore des gens qui vont manifester. Et je vous rappelle que c'est le long d'une clôture et que l'armée, donc israélienne, la police a frappé principalement avant-hier, là, avec des armes, des tirs, et que 60 personnes ont été tuées. Et le Canada a dénoncé la violence, mais le Canada n'a pas dénoncé l'usage abusif de la force. Et je parlais avec notre collègue Fabrice de Pierrebourg, qui s'est rendu il y a quelques mois à peine dans ce secteur-là. Et on sait que l'argument d'Israël, c'est de dire que c'est le Hamas qui utilise des jeunes, des femmes, des personnes âgées, des enfants, pour provoquer l'armée américaine, l'armée israélienne. Donc, pour amener cette confrontation et faire passer sur le dos d'Israël la réplique qui est habituellement assez forte. D'un autre côté, en parlant avec Fabrice, il faut voir aussi la configuration des lieux. On parle de champs de désert. Hier, il y avait une image qui circulait, c'était un espèce de feu qui est allumé au loin. On n'est pas là face à des gens qui ont des lance-roquettes et qui peuvent menacer des villages directement. On n'est pas dans ça, là. Je vous dis pas que ça n'existe pas. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des villages qui peuvent être touchés en Israël par des tirs du Hamas. Mais 60 morts dans ce type d'affrontement, disons que c'est questionnable, à tout le moins, là, comme stratégie de la part d'Israël. Et pour vous montrer un peu le ton, dans le New York Times ce matin, on rapporte les propos d'un homme qui vit sur le territoire, qui est israélien, et qui dit, quand vous les connaissez, chacun, chacune des victimes méritait d'avoir une balle, incluant des enfants. Alors, c'est l'état d'esprit dans la région, alors vous comprendrez qu'on est loin d'une solution de paix. Revenons ici pour parler un peu de politique quand même. Peux-tu vous dire que il y a des journées où tu te demandes parfois quelle mouche pique les politiciens? D'abord, commençons par le ministre Luc Blanchette, qui a défendu son histoire de pêche dans le Grand Nord en donnant le mandat à des pourvoiries qui chargent évidemment très cher, l'espèce d'exclusivité. T'es obligé de passer par les pourvoiries si tu vas aller pêcher dans le Grand Nord, puis l'argument, ben ça coûte déjà cher d'y aller parce qu'il n'y a pas de route accessible. Donc, c'est un voyage de pêche qui coûte quand même très cher. Et pour défendre son point, il a dit, de toute façon, ceux qui sont capables de se payer un voyage dans le Grand Nord, là, c'est pas la clientèle des Walmart. OK? C'est pas les pauvres. Puis là, c'était à la limite méprisant, là, en disant, toi, t'es capable de te payer du Walmart, c'est sûr que tu te payes pas un voyage de pêche. Fait que pourquoi on te donnerait la permission ou la possibilité, disons, d'y aller? Là, il semble que le gouvernement va reculer sur cette affaire-là, puis qu'on va permettre aux gens d'avoir accès aux rivières, même si on ne va pas dans les pourvoiries. Mais tu sais, là, il s'est excusé hier d'avoir dit cette niaiserie-là. Muguette, vedette instantanée d'un débat des chefs, une découverte du Parti québécois pour nous faire croire qu'elle incarne la sagesse populaire et qu'elle est cette espèce de caution des préoccupations du vrai monde. Bien là, Muguette avait des activités sur le web. Catherine va nous raconter ça tantôt. Ça a été dévoilé hier. Parce que tu laisses des traces sur le web. Et c'est parfois des propos, parfois également des, ce qu'on appelle des likes. Mais c'est sûr là, que le Parti québécois s'est retrouvé avec la patate chaude Muguette hier. C'est candidate à l'investiture. Puis là, tu essaies de faire disparaître tout ce qui est compromettant. Puis évidemment, c'est trop tard. Fait que c'est parti qui... comme une balle de neige sur les médias sociaux. Alors, des propos, pas très civilisés, des propos sur les musulmans en masse. Et là, dans la journée, hier, elle nous a annoncé qu'elle se retirait. En plus de ça, il y a l'histoire assez particulière de la mairesse, Mme Fumagalli, qui est la mairesse de Saint-Michel, Parc Extension et Villeray. Là, on comprend que c'est du harcèlement au travail, roulement de personnel, des crises, du mépris. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec la mairesse? Bien, Mme Plante a décidé que la mairesse en allait à la maison. Tu sais, c'est comme une suspension à l'école. Voici tes devoirs, mais tu travailles de la maison parce que t'es pas gentil. Puis là, on va nommer une espèce de médiateur pour rapprocher le monde. Alors, puis là, les employés qui sont tannés de ça, et qui ont alerté l'hôtel de ville, c'est pour ça que c'est pris au sérieux, et c'est pour ça qu'on fait une enquête. Mais avouez que c'est assez hors du commun, là, que t'envoies l'élu, la mairesse d'un arrondissement, tu l'empêches d'aller à l'hôtel de ville, puis tu dis « travaille de chez vous ». Mais comment elle peut travailler de chez elle? Est-ce qu'elle a des contacts quand même avec son équipe, avec ses fonctionnaires? Elle fait quoi chez eux? Ça demeure un peu mystérieux. Et tant qu'à faire, pour ajouter dans la section des dérapes, on peut voir ça ce matin, ça se passe... Ah, mon Dieu Seigneur. Dans un conseil municipal, est-ce que vous écoutez Infoman parfois? On a des extraits des conseils municipaux. C'est assez space par moment. Alors, voici ce qui s'est passé dans ce délicieux conseil, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a un conseiller qui est d'origine marocaine. Puis il se pogne avec le maire assez régulièrement. Et le ton monte. Et le conseiller en question, lui, dit que c'est même parfois sur le point d'être physique. Que le maire montre les points. Que le maire grogne, que le maire se fait aller, puis que le maire tient des propos qui sont parfois quand même assez violents. Alors, le gars en question dit que là, il s'est tanné parce que le maire l'a insulté. Alors, que dit le maire? Bien, il a dit essentiellement que lui, c'est un importé. Il a dit ça, son conseiller d'origine marocaine, t'es un importé. Puis là, le maire dit qu'il regrette, mais il veut pas s'excuser. Fait que, oh bien, hein? Et juste pour finir sur le volet immigration, propos un peu intenses, la CAQ hier nous a présenté ses priorités. Alors, il faut que les gens qui viennent au Québec apprennent ou connaissent le français. Il faut que ces gens-là adhèrent aux valeurs québécoises, puis en même temps soient en recherche d'emploi ou aient déjà un travail. Sur le premier critère, on est assez d'accord. Là. Tu veux venir au Québec, idéalement, peux-tu déjà maîtriser le français? Sinon, peux-tu l'apprendre? Là, on sait que c'est un échec retentissant, la politique de francisation. Mais est-ce qu'on peut y mettre des éléments qui vont amener les gens à se franciser? Particulièrement pour les immigrants de première génération. Moi, les valeurs, je vous le dis depuis le début, là, l'histoire de faire passer un test, d'informer, de partager, d'avertir en disant « Voici au Québec, comment ça fonctionne, l'égalité homme-femme, entre autres. » Parfait. Mais faire passer un test. Puis la conclusion, si tu l'échoues le test, il arrive quoi? Il arrive à rien. Parce que il n'est pas question de déporter les gens sur la base d'un échec de test, parce que c'est le fédéral qui décide. Fait qu'on va dire quoi? Que cette personne ne peut pas rester au Québec, puis le fédéral va dire, bien, on s'excuse. On n'ira pas déporter sur cette question-là. Alors moi, le test, je pense que ça sert à rien. Ça peut faire plaisir à bien du monde, mais je suis loin d'être convaincu de la pertinence de ça. On sait que le PQ propose de faire une immigration basée sur la langue principalement, de dire « allons chercher des gens qui sont francophones ». En même temps, tu peux aussi te priver d'une immigration qui a une capacité de s'adapter pareil à la société québécoise, puis que les gens vont apprendre finalement le français. Ce n'est pas la première, ça peut être aussi de la deuxième génération. Puis l'autre point fondamental, ce qui indispose beaucoup le Parti libéral, c'est qu'on a le droit de faire un débat sur le nombre de personnes qu'on souhaite faire entrer au Québec par année. Tu 50 comme les libéraux disent, tu 40 comme la CAQ le prétend. Mais on peut-tu en débattre sans se faire taxer d'être xénophobe puis de souffler sur les braises de l'intolérance. 6h15, on va retrouver Marc. Est-ce que c'est un début de journée pas trop dur ou comment ça se passe? OK. J'ai oublié de vous préciser l'endroit tantôt. C'est à Héberville Station que ça se passe. C'est le maire, M. Réal Côté, qui est allé un peu raide dans le propos, encore une fois. Bon. Puisqu'on est dans les histoires de religion, ce matin, c'est le Journal de Québec qui parle des services sociaux qui sont débordés par des cas de gens qui ont été endoctrinés soit par leurs parents, soit par la communauté. Et on se retrouve avec, semble-t-il, de plusieurs cas, des dossiers qui ont été ouverts avec des enquêtes qui mènent sur des cas d'enfants qui n'ont pas pu manger, des rites de passage pour les adolescents, des sévices corporels, absence scolaire, des jeunes qui sont isolés de la société, des cas d'abus qui amènent de nombreux signalements. Et dans le cas de Québec, on parle du centre évangélique Parole de vie qui ont fait l'objet d'une plainte, quand même plusieurs interventions. Et c'est pas la première fois qu'on dit ça. Moi, j'ai interviewé plusieurs personnes qui sont passées dans les mailles des sectes religieuses. Puis ça va des apôtres de l'amour infini à Saint-Jovite, à quelques témoins de Jéhovah, puis d'autres groupes religieux. Pas plus tard que l'automne dernier, on parlait avec des anciens membres d'une église, l'église biblique baptiste métropolitaine sud, située à Saint-Hubert, dirigée par le pasteur Mario Monette, et qui a une façon, disons, bien à lui de diriger son église. Puis il y a ce qu'on appelle du harcèlement psychologique. Et souvent, quand on parle de maltraitance faite aux enfants, là, on a tendance à ne pas regarder ce qui se passe dans ces milieux très, très souvent sectaires, isolés. Puis les enfants ne deviennent pas membres de l'Église par choix. Là. Les enfants sont amenés là par les parents. Puis pour être capable d'en sortir plus tard, c'est tout un effort qui doit être fait. Puis c'est un long processus, puis c'est extrêmement douloureux. Alors, dans ce dossier-là, on nous montre ce matin que la DPJ commence à recevoir plus de plaintes. C'est comme si les gens qui en sortent sont capables au moins de faire des signalements puis dire ce qui se passe. Aussi ce matin, Théo Taxi. Bon, Alexandre Taillefer a annoncé hier, officiellement donc, qu'il devenait le président de la campagne du Parti libéral. Puis il a expliqué pourquoi, en disant que c'était son choix, qu'il n'est plus membre du Parti québécois, puis de déchirer la carte, puis que le Parti libéral incarne les valeurs progressistes. Et c'est surtout ça qui fait sursauter. Pourquoi je vous parle de Théo Taxi? Parce que le Journal de Montréal nous explique qu'il y a des problèmes de relations de travail. Puis qu'il y a des chauffeurs qui ont quitté, d'autres, en fait, qui ont été virés, et que c'est extrêmement dur à l'interne, que les chauffeurs se sentent surveillés, que les chauffeurs sont comme obligés parfois de faire du temps supplémentaire, que, bref, la gestion, les ressources humaines, les relations de travail, c'est pas à son meilleur. Et on sait que Théo Taxi connaît quand même des passes difficiles, là. On sait qu'il y a eu des appels à l'investissement de la part des partenaires, puis on sait que les partenaires, c'est quand même Investissement Québec, c'est le Fonds de solidarité, c'est la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Alors, comment va Théo Taxi? Je ne le sais pas plus que vous. Je sais qu'il y a des cadres qui ont quitté. C'est, disons, dans la façade, une entreprise qui ne semble pas aller très bien. Et j'ai reçu dans le passé un courriel, ou deux ou trois même, je dirais, de chauffeurs qui se plaignaient un peu de la gestion de l'horaire, mais bon, t'en reçois dans plusieurs domaines. Alors, Alexandre Taillefer sera avec nous ce matin. On parlait tantôt de Muguette et de ses activités sur le web. Il y a un excellent papier ce matin dans The Gazette sur la lutte dans l'univers du web que se livrent les antifascistes et, disons, les néo-nazis. Et tout ça avec un projecteur sur le cas de Gabriel Seuillé-Chaput, celui qui est soupçonné d'être Zeiger, un des visages les plus connus du mouvement néo-nazi américain, qui était présent à Charlottesville au cours de l'été, au cours du mois d'août, lors des affrontements, et que lui, donc, vivrait dans Rosemont, la petite patrie. Puis là, il y a eu des manifestations en fin de semaine, puis on a vu aussi cette personne dans le parc Extension qui était grimpée sur un toit avec un drapeau nazi. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on assiste vraiment à une guerre de tranchées sur YouTube, sur le web. On tente de débusquer qui sont ces gens-là, qui sont ces groupes. Évidemment, ils fonctionnent avec des avatars, des pseudonymes. Difficile de pouvoir savoir qui, mais il y a un travail assez gigantesque qui est fait par ces patrouilles du web pour tenter justement de savoir qui ils sont, combien ils sont, qu'est-ce qu'ils disent puis qu'est-ce qu'ils font. Et ultimement, les traquer pour les forcer à partir, comme on a fait dans Rosemont. Tu sais, tu t'imagines, là, t'es sur une rue paisible de Rosemont, toi, tu vis dans ta maison, ton logement, puis arrivent des manifestants, puis des contre-manifestants, puis la police est là, tout ça parce qu'on pense qu'il y a un leader néo-nazi qui est ton voisin de palier. Vraiment, à lire ce matin, c'est super intéressant. Et puis, juste un mot sur le mariage de la fin de semaine. Je vous ai dit, personnellement, m'en fous totalement. Là. C'est pas le genre d'événement, moi, qui va me faire que samedi matin, je vais être avec ma tasse de thé puis ma biscotte à regarder ça, là, tout à fait captivé. Mais là, c'est comme un film, un mauvais film, parce que le père de la mariée devait y aller, il va plus, a vendu des photos à un paparazzi pour faire de l'argent. C'est un ancien réalisateur d'Hollywood qui vit maintenant au Mexique. Là, il s'excuse. Là, hier, la nouvelle, c'était, ben, finalement, il va y aller. Puis là, ce matin, ben, il va plus parce qu'il y a eu des problèmes cardiaques. Puis t'as d'autres membres de la famille qui sont pas invités au mariage parce qu'il y a des demi-frères, demi-sœurs, mais ils vont quand même à Londres inviter pour aller un peu dégobiller sur la famille. Et là, vous avez des tabloïds britanniques qui disent « Mais quelle est cette famille dysfonctionnelle qui se ramasse maintenant au palais de Buckingham? » Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis il y a une qui va sortir un livre en disant « C'est pas l'histoire de ma demi-sœur, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est l'histoire d'une princesse. » Bon. Alors, voyez un peu le genre. Alors, ça alimente comme ça le potinage et les distractions. Il est 6h22. Le Pont Champlain.